Chapitre 11.
Ce truc fait vraiment ce que tu dis ?
Syrienne contemplait la machine. Une sorte de grand caisson métallique criblé de points lumineux et connecté par Wi-Fi à deux ordinateurs. Une rampe, sertie dans le plafond, inondait d'une lumière brutale la pièce étroite et basse. Des capitons gris et luisants tapissaient trois murs. Le quatrième était tendu d'une matière alvéolaire au travers de laquelle on distinguait la deuxième pièce, plus vaste, plus claire, meublée d'une table centrale, d'un cercueil métallique plus petit, d'une étagère tendue d'un drap blanc où étaient alignés un casque sombre, des seringues et d'autres accessoires de médecine.
Ce truc, comme tu dis, a été conçu par deux des plus brillants cerveaux du XXe siècle, lâcha Johannes, les sourcils froncés. Ils avaient un siècle d'avance sur leurs confrères.
Ils avaient franchi un nombre incalculable de sas et de portes protégées par des codes avant d'arriver dans la pièce que l'allemand appelait la translation. Syrienne avait tenté de mémoriser les combinaisons saisies par les doigts agiles de Johannes sur les touches des digicodes, mais comme elles étaient chaque fois différentes, il avait fini par renoncer. Pourquoi le laboratoire secret de la confrérie se tairait-il dans ce quartier pourri de Paris ? Le bâtiment et la plupart de ses voisins étaient frappés d'alignement. Il faudrait déménager avant d'être enseveli sous des tonnes de gravats. Ils sont promis à la démolition depuis des décennies, avait expliqué Johannes. Nos amis à la municipalité s'arrangent pour tenir à l'écart les élus curieux et les rapaces immobiliers. La vétusté est une garantie de tranquillité. Personne ne vient voir ce que nous fabriquons dans le coin. Le luxe de précaution observé par Johannes depuis qu'ils avaient franchi l'entrée dérobée du bâtiment donnait à Syrienne l'impression de s'être introduit par effraction dans une centrale nucléaire. Un bunker technologique interdit ou un vaisseau spatial échoué sur Terre. Les couloirs habillés de métal, les sources lumineuses réparties tous les 5 ou 6 pas, les salles annexes aux portes munies de hublots circulaires accentuaient cette sensation de déambuler à l'intérieur d'un engin spatial. On n'entendait pas d'autre bruit que les souffles discrets des ventilateurs. « Ça paraît incroyable à première vue », murmura Syrienne. La veille, il avait remis 15 000 € en espèces à son parrain. Il doutait maintenant du bien fondé de son investissement. « Rassure-toi, ce fric n'est pas pour moi », lui avait assuré Johannes avec un rictus. « Il ira grossir la caisse secrète de la confrérie. Nous devons sans cesse lever des fonds pour poursuivre les recherches. Nos membres influents s'y emploient, mais nous ne devons pas négliger pour autant l'argent rapporté par les voyages. Un titan ne se fie pas aux apparences, mais aux faits, à l'expérience. Tu ne pourras juger que lorsque tu auras essayé. » Syrienne se rapprocha du grand caisson, l'examina avec attention, ne remarqua rien de notable sur ses flancs et son capot métallique. « Comment ça marche ?» Johannes marqua un temps avant de répondre. Sa nuit n'avait pas été reposante. Yeux cernés, striés de rouge, joues ombrées de barbe, cheveux ternes et gras. Il se définissait volontiers comme un oiseau nocturne, un rapace à l'affût d'expériences en tout genre, un être dionysiaque, un homme capable d'être tous les noms de l'histoire selon la définition de Nietzsche.
« Tu connais le principe de la NDE, » finit-il par demander d'une voix embrumée. « L'expérience de mort imminente ?» Johannes acquiesça d'un signe de tête, là. « Il existe une multitude de thèses contradictoires sur le sujet. La plupart des scientifiques ont opté pour la voie des hallucinations produites par les réactions chimiques du cerveau. Mais d'autres, dont les deux inventeurs de cette machine, ont suivi un chemin différent. » Celui de la conscience indépendante des fonctions cérébrales, séparée du cerveau. Une autre définition de l'âme. Dans ce cas, le cerveau n'est plus le producteur de la pensée, mais son simple moyen d'expression, son vecteur. L'expérience de mort imminente crèverait un plafond, ouvrirait une porte vers la conscience qui transmet à travers son interface cérébrale. Elle serait un bref passage de l'autre côté du miroir. Tous les sujets qui ont expérimenté la NDE témoignent de cette sensation soudaine d'être décorporé, comme extirpé de leur organisme,
de filer à vive allure le long d'un tunnel plus ou moins brillant, d'atteindre ensuite un état agréable et reposant. La mort imminente provoquerait donc un brusque saut de la conscience vers une conscience élargie, une réalité plus vaste. Nos deux chercheurs, un Tchèque et un Français, ont mené inlassablement leurs expériences sur la NDE, utilisant des produits comme la kétamine pour reprogrammer artificiellement les étapes de la mort imminente. Il s'agissait pour eux de recréer les conditions qui entraîneraient la conscience ou l'âme à sortir du corps, puis de la piéger et de la diriger vers un organisme de substitution. Les applications sont gigantesques, comme tu peux t'en douter. C'est la confrérie qui a financé leurs travaux, ainsi que les expériences de leurs successeurs. Ce n'est ici qu'un banc d'essai, le lieu où quelques titans privilégiés peuvent expérimenter in vivo les possibilités du voyage extracorporel.
Tu veux dire ? Cyriane effleura de l'index le métal lisse du cercueil. Qu'on est pratiquement mort quand on est là-dedans ?
Disons qu'on simule une expérience de mort imminente pour le voyageur jusqu'au moment où son âme se sépare de son corps.
Et qu'est-ce qu'il devient, le corps, pendant que son âme se promène ailleurs ?
Il végète dans un état cataleptique, une sorte de coma provoqué par injection d'un produit dérivé de kétamine et interrompu dès le retour de sa conscience.
Et si... s'il ne se réveille pas ?
Johannes balaya l'air de ses mains.
Ça n'est jamais arrivé en 30 années de pratique. Nous maîtrisons parfaitement le processus. On pourrait dire qu'il s'agit d'une anesthésie prolongée.
Et le transfert de l'âme dans le corps d'emprunt,
il ne rate jamais non plus ?
Ça arrive. La conscience du voyageur est parfois prise de panique et revient aussitôt dans son organisme d'origine. Le seul inconvénient dans ce cas-là, c'est que le voyage est annulé et que le voyageur n'est pas remboursé, mais tout le monde connaît les règles du jeu.
L'excitation se manifestait chez Cyriane par des frissons et des tremblements. Il savait déjà, malgré ses doutes et ses inquiétudes, qu'il confierait bientôt son corps et son âme au translateur, qu'il partirait pour le voyage ultime promis par Johannes. Il espérait que l'expérience répondrait en partie à ses interrogations sur la perception du monde à partir du point focal et minuscule qu'était le moi, l'ego. Pendant quelques jours, il vivrait avec les sens de quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'on peut choisir son corps d'emprunt ?
Je ne te le conseille pas. Tu risques d'attendre longtemps.
Et même de ne jamais partir. Pourquoi choisir ? Tous les voyages se valent.
Choisir est une forme inconsciente de peur, de refus.
Pars avec le premier qui se présente.
Qui se présente ? Justement ! Qui est assez dingue pour prêter son corps à la conscience d'un autre ?
Johannes s'assit sur un coin de la table qui supportait le cercueil. Il n'avait probablement pas retiré ses vêtements, sales et chiffonnés depuis plusieurs jours. Des lueurs furtives traversaient les écrans sombres des ordinateurs.
Personne, dit l'Allemand avec un sourire, personne n'accepterait un colocataire dans son corps, sauf s'il ne le sait pas.
Tu veux dire que les voyages sont clandestins. Les vaisseaux, les corps d'emprunt, ne savent pas qu'ils trimballent un hôte pendant 4 jours. Ils croient qu'ils ont été payés, largement d'ailleurs, pour expérimenter un nouveau médicament, une nouvelle molécule. Nous leur racontons que le médicament risque de déclencher des effets secondaires de type schizophrénique. D'où leur impression de percevoir une deuxième présence en eux. Certains, les sujets plus réceptifs, entendent même les pensées de leur hôte. Ce qui a déjà permis de constater qu'un cerveau peut servir d'interface à plusieurs consciences.
Une nuée de questions se levait dans l'esprit de Cyriane. Les yeux couleur d'eau sale de Johannes brillaient d'un éclat étrange, métallique.
Putain ! Et si le corps d'emprunt ne se présente pas au deuxième rendez-vous ?
L'Allemand se releva et traîna sa grande carcasse vers le mur tendu de la matière alvéolaire.
C'est le risque majeur, dit-il, les yeux rivés sur la deuxième pièce. Nous essayons de prendre toutes les précautions, mais un vaisseau peut toujours se perdre dans la nature. Et même... mourir.
Qu'est-ce qui se passe alors ?
Johannes se retourna et fixa son filleul avec froideur.
Nous réveillons le voyageur.
Il continue de vivre, mais il est... comment dire... réduit à ses fonctions primaires. Il peut penser, parler, et même s'insérer dans la société, mais il ne prend plus aucune initiative. Il n'a plus d'individualité, plus de personnalité. Ça ressemble à une lobotomie. Son destin personnel est brisé. Il épouse le destin de l'espèce. On pourrait parler d'instinct pour un animal.
La conscience ne peut pas revenir d'elle-même dans le corps d'origine?
Si, en théorie. Le problème est que l'âme du voyageur s'identifie à son corps d'emprunt si on l'y laisse plus d'une semaine, et qu'elle oublie son corps d'origine. Il se produit alors une séparation définitive entre l'âme et son porteur originel, et une sorte de dédoublement de la personnalité dans le corps d'emprunt. C'est ce que disent les statistiques, en tout cas. D'où le délai strict de 4 jours entre le premier et le deuxième rendez-vous? Johan se tira de la poche de sa veste un paquet de cigarettes et en glissa une entre ses lèvres sans l'allumer.
« Ça se passe très bien avec la plupart des vaisseaux, d'autant que nous leur remettons la plus grosse partie de l'argent au deuxième rendez-vous, mais encore une fois, il arrive que pour une raison ou une autre, ils ne puissent pas venir. Nous nous débrouillons alors pour les récupérer, de gré ou de force. Vous savez où les retrouver ?»
Johan se joua un instant avec sa cigarette au papier noir et au filtre doré.
Nous affectons un quart des 15 000 euros à leur surveillance. Nous les faisons suivre. Nous savons où ils crèchent. Nous les empêchons de partir au besoin. La plupart d'entre eux sont des fauchés, des SDF. Quelques-uns des clandestins. Quelques-uns des étudiants. Beaucoup de femmes dans le lot.
Tu as fait combien de voyages, Johannes?
2 seulement. Question de fric, tu comprends?
Toi... L'Allemand alluma enfin sa cigarette et disparut un instant derrière le nuage de fumée. Une odeur de tabac sucré et de papier brûlé se diffusa dans la pièce.
« On n'a pas le droit de fumer ici, mais tant pis, toi qui n'as pas de problème de fric, Syrienne. Tu risques de tomber dans le piège de la fascination, de la dépendance. Les voyages sont des expériences intenses, des drogues dures. Parfois, il se passe mal. » Parfois le voyageur est pris de panique, mais une fois revenu dans son corps, il ne songe plus qu'à recommencer.
Une drogue dure, je te dis, la défonce. La confrérie a dû établir une règle stricte, 1 voyage par trimestre, pas 1 de plus. Et jamais dans le même corps d'emprunt, pour éviter toute identification.
Syrian tremblait maintenant de tous ses membres. Il avait éprouvé la même émotion la première fois qu'il avait invité Aurel au restaurant, la première fois qu'il l'avait emmené dans son appartement, la première fois qu'il l'avait embrassé, la première fois qu'il l'avait déshabillé, la première fois qu'il l'avait caressé. Il lui tardait maintenant de se lancer dans l'aventure, malgré les dangers évoqués par Johannes.
À cause des dangers évoqués par Johannes, il se tenait tout près, du moins, il en avait l'impression, de la source secrète d'où jaillissait la vie. Tout près du feu primordial, comme le Prométhée du mythe. Il se félicitait d'avoir suivi la voie étroite et douloureuse des titans. En sacrifiant son amour de jeunesse, il s'était extrait de la masse des êtres ordinaires. Il avait gagné un billet pour une fabuleuse odyssée.
Quand le prochain voyage est-il prévu?
Dès qu'on aura trouvé un vaisseau fiable. Tu as payé, Syrienne. Tu es le premier sur la liste.
Au fait, Johannes, tu ne m'as pas encore révélé ton nom de titan.
Des éclats de rire s'échappèrent de la volumineuse écharpe de fumée rejetée par l'Allemand.
Dionysos étant pris, j'ai choisi Enir, l'un des dieux de la trinité primitive scandinave. Il passe pour avoir donné à l'homme son intelligence.
Syrian eut la surprise de découvrir Aurel sur son palier, provocante, magnifique, dans sa courte robe fleurie. La nuit était tombée depuis un bon moment, l'obscurité n'avait pas encore chassé la tiédeur du jour. Il avait renoncé à réviser au milieu de l'après-midi, incapable de se concentrer sur ses cours, se demandant qui serait son vaisseau, comment se passerait le voyage, s'il reviendrait indemne d'un tel périple. Les formules et les chiffres alignés sur les livres et les cahiers n'éveillaient en lui aucun intérêt. Ils avaient pourtant servi à fabriquer la machine du laboratoire secret des titans. Les doutes l'assaillaient par vagues. Il ne croyait pas le translateur capable d'extraire une conscience d'un organisme et de la projeter dans un autre organisme. La machine aurait été mondialement connue si elle avait été vraiment fonctionnelle. Comme le disait Johannes, les applications étaient énormes. Il suffisait de produire des clones. Des succès dans le domaine du clonage humain étaient signalés un peu partout dans le monde pour déménager de son vieux corps usé et se réinstaller dans une copie neuve et saine du modèle originel. Un pas de géant en direction de l'immortalité. Pourquoi la confrérie n'avait-elle pas cherché à tirer un plus grand profit de la fantastique machine qu'elle abritait dans son antre secret? Il en discuterait avec Johannes ou avec d'autres titans lors de la prochaine assemblée trimestrielle. Il l'aurait expérimenté d'ici là, et si elle tenait toutes ses promesses, il pourrait en parler en connaissance de cause. « Je peux te voir ?» L'agressivité criblait des chars de la voix d'Aurel. Cyrianne s'effaça pour l'inviter à entrer. Il la soupçonna d'avoir passé cette robe courte pour la guicher. Il se tint sur ses gardes, fermement décidé à juguler le désir qu'il sentait déjà monter en lui. « Tu veux boire quelque chose ?» Elle s'assit à la place qu'elle avait l'habitude d'occuper, sur le fauteuil en cuir en face du divan, tira nerveusement sur sa robe pour couvrir ses jambes nues et déclina l'offre d'un mouvement de la main. Cyrianne regretta de ne pas avoir pris le temps de faire un peu de rangement. La femme de ménage ne passerait que dans 2 jours. Ses chaussettes, ses caleçons, ses frusques tire-bouchonnés traînaient sur la moquette, les tasses et les restes de petit déjeuner s'entassaient à côté de l'évier, les papiers, les journaux et des épluchures d'orange s'étalaient dans le plus grand désordre sur la table. « Désolé pour le bordel. »« Je m'en fous, » coupa-t-elle d'un ton impatient. « Qu'est-ce que tu veux ?» Aurel changea de position et garda un instant les yeux fixés sur la moquette. « Je voudrais comprendre, » dit-elle sans relever la tête. « Comprendre ? » ?»« Fais pas l'innocent. Pourquoi tu m'as vendu à Johannes ?» J'ai rien vendu du tout. Pardon, c'est vrai. Je ne vaux même pas un minimum de fric. Tu m'as donné à Johannes. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle se redressa, le regard chargé de colère. Te fous pas de ma gueule, Cyrianne. Dis-moi seulement ce que tu as gagné dans l'affaire. Ça me mine, ça me ronge, tu comprends? Il faut que je sache. Cyrianne repoussa l'envie brutale de briser le mur du silence, de lui déballer la vérité. Il aurait voulu être elle en cet instant, savoir ce qui se passait dans sa tête, explorer le monde par ses yeux. Mais elle ne serait jamais un corps d'emprunt, un vaisseau. Elle n'était pas de ces êtres misérables que la nécessité poussait à faire n'importe quel boulot, à subir n'importe quelle expérience, imbue d'elle, de sa beauté, de son intelligence, des certitudes de son milieu. En elle, il pourrait seulement introduire un bout de sa chair. Tu ne pourrais pas comprendre. Parce que je suis trop conne, c'est ça? C'est ça? Des cris tombèrent des étages supérieurs en écho à son éclat de voix. La mère Maugrelier se déchaînait contre son musicien de rejeton. Elle avait confié à Cyrianne qu'elle l'avait surpris en train de fumer la veille. Fumer, vous vous rendez compte, à son âge? Il n'avait pas osé lui répondre qu'il l'avait vu à plusieurs reprises tirer sur autre chose qu'une simple cigarette. Parce que je ne peux pas parler. Est-ce qu'il y a un rapport avec... Tu sais, le petit bout de film que j'ai reçu sur mon mail, d'où il vient au fait? C'est toi qui nous as filmé? Il secoua la tête. Ils voulaient, ceux qui ont filmé, le diffuser sur le net si je ne retirais pas ma plainte contre toi, poursuivit-elle, oppressée. Putain, mais c'est quoi ce truc? C'est qui ces mecs? Dans quel merdier tu t'es foutu? T'occupe pas de ça, je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Tu n'as plus rien à craindre, c'est tout ce que je peux te dire. Elle se leva, défroissa sa robe, et alors qu'il s'attendait à la voir se diriger vers la sortie de l'appartement, elle s'avança vers lui. « Je ne pensais pas que tu me manquerais à ce point. » Elle s'assit à ses côtés sur le canapé et le dévisagea avec une intensité douloureuse. « Quelque chose a changé en toi. Est-ce qu'un jour nous pourrons oublier tout ça, Cyrianne ?» Il avait envie d'elle. Mais il ne l'aimait plus. Il n'était plus emberlificoté dans les émotions. Il avait tranché les liens. Il était enfin un titan.